BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, 18h pile sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a cette chasse aux économies, vous le savez, qui se poursuit. Économie dans la dépense publique et aussi, ça c'est un petit peu nouveau, économie dans la dépense énergétique. Ce sont les annonces faites par Bruno Le Maire cet après-midi. On va évidemment vous raconter tout ce soir dans Good Evening Business. Ce soir, après la grande interview d'Edwige Chevrillon, ce sera dans 10 minutes. Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, qui sera l'invité d'Edwige et qui répondra à toutes ces questions sur le nouveau projet de Vivendi qui, vous le savez, veut se scinder en 4 sociétés distinctes cotées en bourse. Et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a là aussi encore beaucoup de sujets à voir avec eux ce soir. On va parler notamment du projet de loi de sûreté nucléaire qui revient ce soir à l'Assemblée, de devant des députés manifestement pas convaincus. Et puis la suite des réformes, ça aussi évidemment c'est très important, la suite des réformes à l'Assemblée d'ici à l'été. Le gouvernement vient tout juste de dévoiler son calendrier législatif. Évidemment, on va en parler ce soir dans Good Evening. Voilà le programme, on est en direct jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Mais d'abord, donc, le journal, et on va dire que les couacs s'enchaînent pour Boeing, malheureusement, on ne peut pas dire les choses autrement. Une porte, une roue, et maintenant, un train d'atterrissage. Bonsoir, Léo Dumas.
Bonsoir.
Pour résumer les choses, c'est un petit peu la loi des séries, Léo, et on apprend, c'était il y a quelques heures, un gros incident sur un 787 au-dessus de la Nouvelle-Zélande, Léo.
Oui, c'est un incident qui s'est produit ce matin, Thomas. Un gros problème technique rencontré sur un Boeing 787 de la compagnie LATAM, qui était en vol entre Sydney et Auckland, au-dessus de la mer de Tasmanie. L'appareil a perdu énormément d'altitude en très peu de temps, avec des dizaines de passagers qui ont été projetés au plafond. Après ces turbulences, l'avion a réussi à se poser normalement à Auckland, mais avec une cinquantaine de blessés, dont 12 personnes qui sont actuellement hospitalisées. Vous l'avez dit, Thomas, c'est vraiment une mauvaise série. Si on retourne début janvier, on se souvient de ces images de la porte d'un 737 MAX qui se détache en plein vol, en cause un boulon qui était mal serré. Et puis, la semaine dernière, un 777 contraint de se poser en urgence à l'aéroport de Los Angeles après que l'avion ait perdu un pneu lors de son décollage. Et puis, le lendemain, vendredi, une sortie de piste pour un 737 MAX, là aussi à Houston, qui a causé l'effondrement de son train d'atterrissage.
Ouais, bon, donc effectivement, des problèmes en série que plusieurs rapports, Léo, avaient alerté. Hein.
Oui, et d'abord celui de l'Agence américaine de sécurité des transports qui pointe des failles du contrôle qualité chez Boeing. Des problèmes de maintenance également. Celui de la FAA, l'Agence fédérale américaine de l'aviation, qui pointe là des problèmes de non-conformité dans le contrôle de production. Et forcément, certains clients majeurs de Boeing sont aussi montés au front. Le patron de Ryanair parle de problèmes qui ne devrait pas se produire chez un constructeur de classe mondiale comme Boeing. Ce sont ces mots. Le patron d'Emirates aussi qui a récemment parlé du moment de la dernière chance pour le constructeur. Il constate le déclin progressif des standards de fabrication. Boeing qui est finalement accusé d'avoir privilégié ces dernières années ses résultats financiers. Son titre est malmené à Wall Street depuis le 1er janvier. Moins 23%. Moins 3% aujourd'hui.
Moins 3% encore aujourd'hui. Merci beaucoup Léo. Effectivement cette mauvaise série qui se poursuit pour Boeing. On enchaîne 18h03. Avec ce classement spectaculaire, la France est devenue le deuxième exportateur d'armes dans le monde devant la Russie et la Chine. Bonsoir Nathan Cocampo. Bon, en cause évidemment la guerre en Ukraine, on s'en doute, qui a boosté les exportations européennes et freiné celles de la Russie d'après le tout dernier rapport du CIPRI, Nathan.
Oui Thomas, plus 47% en 5 ans, la France a dynamisé son industrie d'armement, portée évidemment par la guerre en Ukraine, mais aussi la vente du Rafale vers l'Inde, le Qatar. Elle atteint désormais 11% des exportations d'armes dans le monde, à la deuxième place, loin derrière les États-Unis, mais devant la Russie et la Chine. Plus largement, la guerre en Ukraine a donc nettement tiré à la hausse les importations d'armes en Europe. Elles ont quasiment doublé ces 5 dernières années et l'Ukraine est devenue le 4e importateur mondial d'armes. Des armes venant d'une trentaine de pays, mais le CIPRI précise aussi que la dépendance européenne envers les États-Unis est encore plus forte aujourd'hui. 55% des importations européennes viennent des États-Unis contre 35% entre 2014 et 2018. Une dépendance accrue expliquée par une certaine précipitation des Européens pour au plus vite acquérir des armes face à la menace russe.
Bon, donc c'est très clair, Nathan, hein, la guerre en Ukraine a clairement profité à l'armement occidental, européen et américain, au détriment de la production russe.
Oui, la Russie a exporté deux fois moins d'armes qu'il y a cinq ans et perd donc sa deuxième place historique. Deux fois moins d'armes à un nombre très réduit de pays, de 31 pays. La Russie exporte désormais seulement à 12 pays, dont l'Inde, qui reste le premier partenaire russe dans ce domaine. Mais derrière, Pékin a aussi nettement réduit ses importations et préfère développer massivement sa propre production.
Merci beaucoup, Nathan. 18h05. On parle maintenant de nucléaire avec le retour à l'Assemblée d'une mesure ultra contestée. Bonsoir Mathieu Bechberti.
Bonsoir Thomas.
On parle en l'occurrence, Mathieu, de la réforme de la sûreté nucléaire, de la fusion entre l'ASN et l'IRSN. C'est compliqué à dire, oui. Sauf que c'est très important et les députés avaient déjà l'an dernier retoqué cette mesure voulue par le gouvernement, Mathieu.
Exactement, le projet est en train d'être débattu à l'Assemblée en ce moment même et il y a effectivement un risque qu'il soit retoqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce projet de loi qui consiste à fusionner l'autorité de sûreté nucléaire avec l'Institut de sûreté nucléaire, deux organismes indépendants et qui opèrent dans la sûreté nucléaire depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Le gouvernement avait déjà souhaité cette fusion de ces deux institutions en une seule autorité de sûreté nucléaire l'année dernière. Ça avait été rejeté par de nombreux parlementaires et puis ça avait suscité beaucoup d'agitation dans l'industrie nucléaire même et puis dans le cadre d'associations également environnementales qui contestaient ce projet. Là, le gouvernement revient avec ce projet. L'article qui mentionne concrètement et qui stipule la fusion de ces deux organismes a été rejeté en commission et le gouvernement va essayer de le faire revenir par le biais d'un amendement, de plusieurs amendements même évidemment. Ils vont rentrer par la porte, par la fenêtre et la cheminée ce soir à l'Assemblée. Ouais. Donc il y a beaucoup de tractations à l'Assemblée. C'est le groupement des indépendants, Liotte, qui porte en tout cas ce rejet, qui défend le rejet de ce projet du gouvernement. C'est Agnès Pannier-Runacher qui avait déjà
à l'époque, ouais.
Échoué face à cela aujourd'hui. Cette fois, c'est Roland Lescure, ouais. Évidemment. Les défenseurs de cet amendement stipulent que dans le cas de la relance du nucléaire, il faut une autorité unique. Au contraire, les détracteurs disent que ça va faire baisser la sûreté et ça va empêcher des contre-pouvoirs nécessaires pour bien contrôler ce secteur.
Bon, un amendement ô combien stratégique et on va voir si cette fois-ci il passe ou pas. Merci beaucoup Mathieu Bechberti. 18h07, plusieurs services de l'État sont victimes depuis hier soir de cyberattaques, je cite, classiques mais d'une intensité inédite. C'est ce que vient de déclarer Matignon, qui ajoute qu'à ce stade, l'impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l'accès au site de l'État rétabli. On en parle ce soir plus longuement à partir de 20h dans Tech & Co. Et puis pour finir, on va parler de grande distrib et plus précisément de la CFDT qui attaque en justice Carrefour devant le tribunal d'Evry. Le premier syndicat de France reproche en effet aux distributeurs de cacher une restructuration du groupe derrière le passage à la location-gérance, une thèse que réfute la direction de Carrefour. Pauline Tadevin.
Ce n'est pas la location-gérance qu'on remet en cause, mais la façon dont l'utilise Carrefour, martèle la CFDT. 23 000 salariés sont concernés sur les cinq dernières années, d'après le syndicat, qui estime que le distributeur pratique ainsi des plans de restructuration déguisés qui pèsent au final sur ses salariés, avec la perte de 2 300 € par an et une partie de leurs avantages sociaux. Tout cela selon la CFDT, alors que le groupe verse en parallèle 481 millions d'euros de dividendes en 2023 et dépense 802 millions d'euros pour racheter ses propres actions. Il ferait mieux de réinjecter l'argent dans les magasins et de l'utiliser pour faire baisser les prix, plaide la CFDT. La direction de l'enseigne répond que ce passage en location-gérance permet d'éviter de fermer les magasins qui marchent moins bien et de les relancer. Carrefour qui fait face donc à un nouveau front sur ce terrain de la location-gérance puisqu'en janvier, ce sont 200 gérants qui l'ont déjà assigné devant le tribunal de commerce de Rennes. Ils dénoncent des contrats déséquilibrés et l'absence de rentabilité économique pour les franchisés.
Pauline Tadevin, 18h08, on va sur les marchés. Les marchés, la clôture du CAC 40 ce soir en direct d'Euronext avec Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence, quel est le verdict ce soir à la clôture des marchés, premier jour de cotation de la semaine?
Verdict, très légère baisse, moins 0,10%, mais on a réussi à sauver les 8000 points. Alors, puisqu'on est à 8019 points, ce léger recul s'explique bien sûr par des prises de profit assez logiques, hein, après les sommets atteints ces dernières semaines par la plupart des grands indices boursiers. Et puis, les actions qui l'ont plus performé corrigent, hein, compte tenu de ces prises de bénéfices. On peut notamment citer Thales ou Capgemini. Les valeurs défensives, elles, reprennent des couleurs comme Sanofi, Carrefour ou Orange. On consolide en bon ordre. La pause n'est pas bien méchante, hein, puisqu'on a quand même réussi à se maintenir tout proche du sommet historique. Et aux US, l'ambiance est identique, avec un Nasdaq en léger repli de 0,27%, le Dow Jones à moins 0,05% et le S&P 500 à moins 0,19%. Les marchés marquent une pause, hein, dans l'attente de plusieurs annonces macroéconomiques dans les jours à venir, notamment les chiffres de l'inflation US qui arriveront demain pour le mois de février, les chiffres de la vente au détail le 14 mars et puis l'indice du Michigan vendredi. Autant de publications qui pourraient aider les marchés à sortir de leur torpeur prochainement.
Et on marque une pause, 18h10, on marque une pause et dans un instant, la grande interview d'Edwige Chevrillon avec son micro ce soir. Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Yannick Bolloré. Il est le président du conseil de surveillance de Vivendi. Il est président, directeur général d'Havas. Bonsoir Yannick Bolloré.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Beaucoup de questions à voir avec vous, des questions un peu polémiques. On a envie de connaître vos réponses, bien sûr. Et puis, il y a des questions de fond, notamment sur les résultats que vous avez publiés, c'était jeudi dernier, pour le groupe Vivendi. Très bon résultat aussi pour Havas. Pour Canal+, qui est vraiment aussi en train de changer complètement de dimension. On parlera de ses ambitions international avec MultiChoice. Et puis, il y a ce fameux projet de scission qui laisse dubitatif un peu les marchés qui se disent, mais finalement, on a très peu de précision. Donc, j'espère que vous allez pouvoir nous en donner. D'abord, deux, trois questions, parce que c'est vrai que chaque jour, il se passe quelque chose autour de Bolloré, notamment des médias Bolloré. La vente de Paris Match, est-ce que c'est une vente très politique? Pourquoi vous avez vendu Gala si c'était ensuite pour vendre Paris Match? Parce que c'est un peu idiot. Gala est une pipite incroyable, avec un présent sur le net formidable. Pourquoi?
Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je me permets de revenir sur les résultats 2023 de Vivendi, que vous avez commentés, qui sont très bons.
Oui. On est vraiment... Ah non, mais ça, on va y revenir, ça, vous inquiétez pas. Après, on commence d'abord un peu par les polémiques, la polémique du jour. Enfin, pas la polémique, mais les questions du jour, interrogation.
Non, il n'y a pas du tout de polémique. Et merci de poser la question. Non, le groupe Vivendi est devenu l'actionnaire majoritaire du groupe Lagardère il y a maintenant un peu plus de deux ans. Mmh. Dans notre discussion avec la Commission européenne, on nous a demandé de vendre Gala.
D'accord, ok, parce qu'il y avait Paris Match.
Et Gala et
Paris Match. Parce qu'il y avait Paris Match.
Voilà, mais Paris Match était propriété du groupe Lagardère. Oui. Gala était propriété du groupe Vivendi à travers.
Ça ne nous avait pas échappé. Ouais.
Donc pouvoir faire l'opération dans les délais qu'on voulait soit le plus court possible. Je vous dis le plus court possible, c'est quand même une opération qui a duré plus de deux ans entre le moment où on a déposé notre dossier et on a eu l'autorisation. On a dû céder Gala.
Et donc là, vous cédez Paris Match, c'est une manière de vous réconcilier avec Bernard Arnault, et notamment qu'il apporte peut-être ses actions, justement, puisqu'il détient 7 à 8% du groupe Lagardère.
Voilà, alors le groupe, quoi, Paris Match fait partie du groupe Lagardère. C'est une décision qui a été prise par Arnault Lagardère suite à une offre qu'il a reçue du groupe LVMH.
Oui, vous savez, on suit le dossier très très bien.
Il n'y a pas du tout besoin de se réconcilier, parce que pour se réconcilier, il aurait fallu que certains des protagonistes que vous décrivez auraient été fâchés, ce qui n'a jamais été le cas, puisque les relations entre Arnault Lagardère et sa famille, la famille Arnault, la famille Bolloré, ont toujours été excellents.
Donc, c'est drôle parce que garde un souvenir quand même de l'assaut de Lagardère par votre famille, par Vincent Bolloré et sans doute par vous-même. C'était pas forcément très friendly en l'occurrence.
Non, si, il y a toujours eu des relations emplies de respect mutuel et d'amitié.
Oui, ça, bon, on vous croit pas beaucoup. Pourquoi est-ce que Paris Match, en fait, on dit que c'est papier de ce matin, les informations de BFM Business et de Mathieu Pechberti, en fait, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est un peu opposé, qui est membre du conseil d'administration chez Lagardère, et qui s'est opposé à la vente de Paris Match. Et du coup, vous l'avez acheté 130 millions, alors qu'avant, la valeur de Paris Match était plus autour de 50.
Alors, je ne veux pas du tout contredire vos journalistes, qui sont excellents, mais en l'occurrence, le projet a été présenté au conseil d'administration du groupe Lagardère, dont je fais partie, donc j'en témoigne en tant que témoin de premier plan. Oui. Nicolas Sarkozy, comme l'ensemble du conseil d'administration, était unanime pour entrer en négociation exclusive avec le groupe LVMH pour la cession de Paris Match.
Ouais, et la vente, le prix de cession finalement est de...
Il n'a pas été communiqué.
Oui, d'accord. Et ça va être effectif quand?
Alors là, les discussions vont commencer. Il faudra saisir les IRP, faire le processus quelques mois.
Juste encore deux points sur la télévision, parce que je crois que c'est mercredi que votre père est auditionné devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences TNT. J'ai envie de dire, pourquoi c'est pas vous ?
Ben alors, écoutez, la commission est souveraine, donc qui elle choisit d'inviter.
Hein. Oui. Et est-ce que pour vous, vous êtes candidat à l'ensemble, si on en croit le patron de Canal+, Maxime Sada, qui a déjà été auditionné. Vous êtes candidat sur l'ensemble de vos fréquences TNT.
Alors j'en profite pour féliciter Maxime et l'ensemble de ses collègues qui ont participé aux auditions que j'ai regardées. Je les ai trouvés tous très professionnels, très bons, très calmes, très souriants.
Ouais.
Et Canal+, oui, évidemment, a indiqué vouloir renouveler, en tout cas candidater au renouvellement de l'ensemble de ces fréquences TNT.
Oui, en même temps, on voit bien notamment, c'est Cyril Hanouna, ça va être sportif, lui qui est auditionné le lendemain.
Jeudi.
Est-ce que, justement, Maxime Sada a dit qu'il y a un risque assumé autour de Cyril Hanouna. Est-ce que le risque, il y a un risque Hanouna d'abord, Yannick Bolloré, et est-ce que vous assumez ce risque?
Alors ça tombe bien, parce que j'ai regardé l'audition, donc ce qu'a dit Maxime Sada, c'est que la magie de Direct 8, quoi, qui s'appelait Direct 8, qui s'appelle C8 aujourd'hui, c'est que c'est une chaîne en direct. Où tout peut arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que cette fréquence était attribuée au groupe Bolloré.
Il y a pas mal de dérapages, parce que ça vous a même coûté cher. Oui.
Il y a eu des dérapages, mais sur l'ensemble des heures de direct qui sont produites chaque jour et chaque mois, chaque année, il y a eu quelques dérapages qu'on assume, que le groupe Canal+ assume, mais Direct 8, C8 aujourd'hui, reste un formidable espace de liberté.
Donc, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un risque à Hanouna que vous assumez?
Il n'y a pas de risque à Hanouna. Il y a un risque à faire des émissions en direct, comme il y a un risque en ce moment à faire une émission en direct où il peut y avoir un dérapage. Peut-être pas de vous ou moi, mais de la part d'un de vos invités, un jour, ça peut arriver. C'est le risque du direct.
Mais si, dérapez, je vous en prie, Yannick Bolloré, parce que là, on vous sent tout de même extrêmement prudent par rapport à ces dossiers. Le fait, l'éviction d'Isabelle Saporta à la tête de Fayard. Fayard appartient au groupe Lagardère, qui maintenant est dans le périmètre, dans votre périmètre, Vivendi, parce que c'est Lise Beul, qui est celle l'éditrice, notamment de Éric Zemmour, et d'autres, on dit aussi de Bardella. On vous lui avait confié la maison d'édition Mazarine avec le label Fayard. Hors de question pour Isabelle Saporta, c'est une reprise en main d'une des plus vieilles maisons d'édition françaises.
Alors j'espère qu'on y viendra un moment au résultat du lundi.
On y arrive, vous inquiétez pas, on a beaucoup de temps. C'est l'avantage de la grande interview.
Voilà, et ce qui concerne les décisions du groupe Lagardère managérial chez Hachette, il faut évidemment demander à Arnaud Lagardère ou à Stéphanie Ferrand.
C'est un peu facile ça, non, Yannick Bolloré, c'est un peu facile.
Ah non, les décisions sont prises par Arnaud Lagardère. Je vous ai toujours dit sur ce plateau depuis 3 ans, et je n'ai pas varié, qu'il avait toute notre confiance. Et
le fait qu'il y ait quasiment une polémique par jour autour du nom Bolloré, est-ce que ça, vous qui êtes considéré comme le good boy dans la fratrie, ou dans le groupe Bolloré, dans la famille Bolloré, ça vous perturbe pas, ça vous agace pas?
Vous savez, le groupe Bolloré est un groupe très actif, qui se développe beaucoup, qui se transforme beaucoup, d'ailleurs qui se réinvente beaucoup, qui fait preuve d'une grande agilité. Et je pense que c'est le lot de tous ceux qui entreprennent, qui avancent, qui font des choses, peut-être de temps en temps.
Il y a un acharnement contre les Bolloré ?
Alors moi, je ne veux pas parler d'acharnement contre quiconque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le groupe se développe, le groupe se réinvente. Et si vous me permettez de parler des résultats du groupe, qui sont excellents. Non,
d'accord, mais enfin, ça ne vous empêche pas. Vous dirigez quand même un très grand groupe. Donc, on n'est pas, que directeur financier, j'ai envie de dire. Alors, ces résultats 2023, et pour cause, vous en êtes très fier, puisque l'année dernière, vous étiez en perte, et que là, vous avez franchi le cap des 10 milliards de résultats, de chiffre d'affaires, grâce à l'intégration de Lagardère au 1er décembre 2023, vous êtes passé dans le vert.
Oui, alors la perte, en réalité, c'était une perte un peu technique, parce qu'on avait provisionné énormément d'argent sur la déconsolidation de Telecom Italia. Mais les résultats aujourd'hui, cette année qu'on a publié jeudi dernier, sont extrêmement positifs, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en termes de profitabilité. Et quand on regarde nos trois principaux métiers, qui sont Canal+, Havas et maintenant le groupe Lagardère, qu'on consolide depuis le 1er décembre, on est extrêmement satisfait de la performance opérationnelle de ces trois métiers.
Oui, alors on va y revenir sur les uns sur les autres, parce que là on reste un peu à la surface des choses. Si l'on regarde ce qui se passe du côté de Canal+, ce qui est intéressant, c'est Canal+, et vraiment il y a des ambitions très internationales de Canal, puisqu'il a lancé une opération sur une offre sur MultiChoice, un opérateur sud-africain. Vous avez relevé votre offre, vous pouvez monter jusqu'à quand, et comment vous financez cette offre sur Canal+?
Alors le groupe Canal+, il faut bien comprendre, c'est un groupe leader en pay TV en Europe, dans une partie d'Asie et en Afrique francophone, qui compte 26,5 millions d'abonnés, les deux tiers en dehors de la France. L'enjeu pour Canal+, c'est d'agrandir sa base d'abonnés, pour à la fois bénéficier de synergies, mais également pouvoir produire des contenus pour un plus grand nombre d'abonnés pour pouvoir concurrencer ou rivaliser des Netflix, Disney+, HBO. Mmh. MultiChoice, c'est un groupe, vous l'avez dit, sud-africain qui rayonne et qui est présent dans toute l'Afrique anglophone et lusophone. C'est quasiment une complémentarité géographique parfaite entre Canal+ et MultiChoice, et on pense qu'il y aurait énormément de bonnes choses pour nos deux groupes et l'ensemble des parties prenantes à nous rapprocher. Et donc le groupe Canal+ a formulé une offre publique d'achat
qui a été rejetée,
a été réévaluée à la hausse et qui a été acceptée par le board, en tout cas qui a la bénédiction du board. Donc on doit la soumettre officiellement dans les trois semaines qui viennent, avant le 8 avril. Ensuite, il y aura une période antitrust dans certains pays concernés, évidemment un volet social, et on espère pouvoir boucler cette opération très transformative pour le groupe Canal+.
Comment allez-vous financer? Est-ce que ça se financera justement par un échange de titres avec Canal? Comment ça va se financer?
Non, ce qu'on va déposer va être 100% en cash, financé par Canal+.
D'accord. 2,7 milliards, ça fait quand même beaucoup.
Alors, une grosse partie a déjà été achetée. Après, on n'est pas certain que 100% du flottant restant apporte leur titre à Canal+. Mmh. D'ailleurs, c'est sûr que non, puisqu'une partie restera pour des raisons réglementaires. Et Canal+ a largement les moyens de se développer. Et quand vous regardez la projection des comptes combinés, entre Canal+ et MultiChoice, vous verrez que ce serait un mouvement, s'il se réalisait, qui serait extrêmement transformatif pour les deux groupes.
Oui, déjà parce que, donc là il y a quand même 2,7 milliards un peu moins, vous venez de le préciser. Est-ce que vous avez aussi augmenté la participation de 30% dans le Hongkongais View? Aujourd'hui Canal+ fait essentiellement son chiffre d'affaires en France, mais on sent bien que là il y a vraiment une dimension internationale très forte, dimension anglo-saxonne.
C'est vraiment l'enjeu de Canal+, c'est clairement son développement à l'international. Okay. Canal+ a très bien réussi sa transformation digitale. Si vous regardez la façon dont les gens consomment Canal+, c'est à la fois toujours en linéaire, qui reste la majorité du temps de consommation. Mais vous pouvez également regarder les programmes en replay sur Internet ou sur une plateforme, et même d'ailleurs via une télévision connectée. L'enjeu pour Canal+, c'est comment conquérir plus d'abonnés à l'international, encore une fois, pour rivaliser avec ses concurrents. Et ses concurrents, c'est pas le service public, c'est pas M6, c'est pas TF1, c'est Netflix, Disney+, etc.
Est-ce qu'un jour, ça fait longtemps que ça traîne ce dossier, mais un rapprochement avec Sky, ça vous paraîtrait assez logique dans ce développement international?
Alors Sky s'est rapproché de Comcast, donc d'un autre acteur il y a quelques années maintenant. Il n'y a pas de discussion en cours. Là, l'enjeu pour nous, c'est ce rapprochement avec MultiChoice, vraiment l'enjeu qui mobilise toutes les équipes de Canal+. Et également des prises de participation, une avec un pass to control, c'est-à-dire qui pourrait nous permettre de devenir majoritaire en Asie du Sud-Est avec le Hongkongais View, et une prise de participation opportunistique dans le Canal+ nordique qui s'appelle Viaplay.
Yannick Bolloré, on va parler de ce projet de scission, et juste un mot quand même sur Havas, et puis puisque dans ce projet de scission, l'idée c'est d'avoir quatre filiales qui soient cotées. Canal+, dans ce développement anglo-saxon, aurait quoi comme logique? C'est d'être coté à Londres, d'être coté à Amsterdam, quoi la logique?
Alors c'est un enjeu très important, ce projet de scission. Peut-être vous expliquer pourquoi on fait cet enjeu de scission.
Oui, non, mais juste sur la cotation, parce qu'on peut parler
d'un. Je vous explique. Oui. Le sujet qu'on a, c'est que nos activités vont très bien. On a posté les résultats, vous les aviez vous-même qualifiés d'excellents. L'enjeu pour nous, c'est que le cours de bourse aujourd'hui ne reflète pas la valeur de nos actifs. Une décote de holding de plus de 40%, estimée à 44% par les analystes. Donc c'est quand même 7 milliards d'euros de valeur qui est perdue. Et donc l'enjeu de ce projet de scission, c'est à la fois de réduire cette décote et de pouvoir redonner les moyens, l'agilité financière et humaine à l'ensemble de ces quatre entités que vous avez évoquées, de pouvoir se développer et conquérir des marchés à l'international. Et donc, c'est le cas pour Canal+.
Oui, c'est pour ça que, du reste, votre titre avait un tout petit peu chuté en bourse, parce que les analystes trouvent qu'il y a beaucoup de flou autour de ce projet. D'abord, sur le calendrier, on disait 12 à 18 mois. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus en fonction de vos assemblées générales, justement?
Le titre, si vous regardez le titre sur les 6 derniers mois, j'ai regardé avant de venir, il gagne 21,55%.
Donc, le titre,
titre Vivendi surperforme le CAC sur les dernières semaines. Le projet a été très bien accueilli. Après, on ne peut pas parler de flou, je vous trouve un peu dur. Ce qui est certain, c'est que c'est un projet très transformatif, qui nécessite beaucoup d'études, d'un point de vue social d'abord, donc RH, d'un point de vue légal, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue corporel.
Et donc avec des cotations dans différentes bourses.
Et voilà, il faut réfléchir aux bons endroits de cotation également, parce que lorsque vous faites une scission, vous pouvez réfléchir au lieu de cotation des nouvelles entités qui seront cotées. Donc il y a tous ces aspects qui doivent rentrer en compte pour que lorsqu'on se mettra ce projet à nos IRP puis au vote de nos actionnaires, on ait le projet le plus optimisé possible.
Ok, ça sera l'AG 2025.
Écoutez, 12 à 18 mois, ça nous emmène entre fin décembre plutôt ou premier semestre 2025. Donc c'est vrai qu'on a une AG 2025 prévue en avril, ça pourrait être une occasion, mais on n'a pas encore spécifié de date précise à ce stade.
Mais c'est l'occasion de spécifier justement. Et ça, donc cotation plutôt Londres ou plutôt Amsterdam ?
Alors pour l'ensemble des entités, on peut réfléchir à des cotations différentes, sauf pour Vivendi qui restera, ce qu'on appelle Vivendi Remain, qui va se transformer en société d'investissement. Une société d'investissement assez premium, qui détiendra des participations dans Universal Music, dans FLE,
10%.
Dans Prisa. Oui, mais 10% d'Universal Music, ça vaut plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais. Donc ça reste des participations importantes et précieuses. Et à part cette société qui restera à côté à Paris sur Euronext, là où elle est, tout est ouvert et tout doit être étudié à ce stade.
Juste deux points, il nous reste trois minutes. Lagardère restera coté, sachant que la faute participation sera dans une des sociétés cotées. Voilà. Là, ça devient un peu compliqué, non ?
Voilà. Non, c'est assez simple. Donc, on s'est engagé à laisser Lagardère coté. Donc, Lagardère restera coté là où elle est. Et on veut créer une société, disons, Publishing Co. en nom de code, qui regroupera à la fois les 60% qu'on détient dans Lagardère et 100% de Prisma Group, qui sera vraiment une société qui aura vocation à développer cette activité édition, presse et commerce en zone de transport. C'est le nom français du Travel Retail.
Et votre participation dans Prisa ?
C'est une participation très minoritaire à ce stade, qui resterait, en tout cas dans le projet tel qu'on l'étudie actuellement, qui reste encore en étude de faisabilité, elle resterait dans le projet qu'on étudie chez Vivendi SE Remain.
D'accord. Et quand vous dites à ce stade, c'est qu'il y a une volonté éventuellement de monter dans Prisa, au capital de Prisa ?
Non, ce n'est pas du tout.
D'accord, non, mais c'est parce que vous dites à ce stade.
Pardon, excusez-moi, je suis peut-être mal exprimé, c'est dans l'état de l'étude actuelle.
Ah voilà, puisqu'on est justement dans les acquisitions, dans les projets une croissance quand même qui a beaucoup soutenu Havas dans un marché qui est plutôt marché publicitaire, qui est plutôt bon.
Oui, le marché publicitaire a été plutôt correct en 2023. Ce qu'on observe cette année, contrairement aux autres années, c'est des écarts de croissance entre les différents groupes de communication. Vous voyez Havas et Publicis qui occupent les deux premières places du podium, suivis derrière par Omnicom. Et par contre, un décrochage des autres grands acteurs de la communication. Mais Havas, avec un plus 4,4% en organique, signe une année 2023 remarquable. C'est d'ailleurs une année record à la fois en termes de chiffre d'affaires et en résultats. Donc, un grand satisfecit. Et ce que vous ne voyez pas dans les résultats qu'on publie, mais je vous le dis parce que vous m'invitez, c'est que le taux de satisfaction client et le taux d'engagement des équipes d'Havas à travers le monde qu'on mesure n'a jamais été aussi élevé.
Et du coup, la question qu'on se pose, c'est puisque vous avez fait, je crois, 10 acquisitions là en 2023, vous voyez, j'ai bien étudié mes dossiers. Maintenant, sur 2024, vous disiez qu'il y en a deux dans le top 5, mais il y en a deux qui sont devant, c'est Publicis et Havas. Il y en a un qui est vraiment en chute libre, c'est WPP. Ça, c'est très décoté. Ça pourrait vous intéresser ou c'est trop gros pour vous, puisque en soi, c'est le géant mondial de la publicité?
Oui, alors c'est un peu compliqué de répondre à votre question. D'une manière générale, moi, j'aime pas répondre à des questions de ce type, surtout quand il s'agit de sociétés cotées. À ce stade, ce que je peux vous dire, c'est qu'Havas va très bien, se développe très bien.
Oui, mais vous ne dites pas non. J'observe que vous ne dites pas non d'avoir une grosse acquisition structurante, pour reprendre votre expression.
Non, mais d'une manière générale, je ne commente pas les rumeurs, parce que vous savez, on nous prête beaucoup de.
Oui, Interpublic aussi, si vous voulez.
Beaucoup d'intentions, et je ne peux pas commenter les intentions qu'on nous prête sur des sociétés cotées pour des raisons évidentes.
Non, mais juste la taille, une taille d'acquisition. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'avoir une acquisition majeure pour Havas.
Ce qu'il faut regarder. C'est l'évolution du marché de la publicité et comment Havas est capable de surperformer ce marché de la publicité. Voilà. Si vous regardez les 2, 3, 4, 10 dernières années, Havas a réussi régulièrement à surperformer ce marché. Donc je pense que la taille d'Havas aujourd'hui est un avantage, surtout qu'avec l'intelligence artificielle, notre monde de la communication est en train d'être bouleversé. Et donc je pense que c'est important de garder cette agilité.
Non, on ne sait pas très bien si c'est un oui ou si c'est un non. Merci beaucoup Yannick Bolloré. Vous reviendrez quand ça sera le cas et puis quand on aura un peu le résultat de cette scission, de ce projet de scission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yannick Bolloré, le patron de Vivendi.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h36 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Nous sommes avec Emmanuel Lechypre. Bonsoir, qui remet sa cravate. Mathieu Pechberti, bienvenue sur le plateau. Edwige, on va tout de suite débattre et échanger sur l'échange que vous venez d'avoir avec le président du conseil de surveillance de Vivendi, Yannick Bolloré. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier coup de poker des Bolloré qui se précise, en tout cas avec ce projet projet de scission de Vivendi et qui doit leur permettre finalement d'en finir avec cette fameuse décote de conglomérat.
Oui, j'ai envie de dire avec les Bolloré, avec Vincent Bolloré, c'est jamais un coup de poker parce que c'est quand même quelqu'un. C'est
jamais le dernier en fait.
Oui, c'est jamais le dernier, en fait.
Et peut-être jamais le dernier. Ce qu'il y a, c'est que c'est une opération financière effectivement pour récupérer cette décote de holding. Et puis, on voit bien ce que je trouvais intéressant là, c'est qu'on a bien compris les ambitions de Bolloré dans les médias. Il y a un changement de position quand même assez forte, une ouverture vers l'international qui est très forte avec et symbolisée avec Canal+, donc avec cette offre sur le groupe sud-africain, donc visiblement qui a été acceptée. Et après, il y aura aussi le groupe Hong Kong Aviu. On voit qu'il y a Canal+, en fait, qui aujourd'hui fait la moitié de son chiffre d'affaires, même plus en France. En fait, c'est visé, c'est le monde. Hein. Enfin, c'est le monde anglo-saxon, en plus. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est un point important que j'ai trouvé dans l'interview d'Yannick Bolloré. L'autre gros sujet, c'est le sujet Havas. Parce que là aussi, Havas retrouve des couleurs, se porte très bien. Le marché de la pub est porteur. Et là, ils ont fait déjà une dizaine d'acquisitions. Et visiblement, il y a d'autres acquisitions en vue, même s'il ne veut pas s'engager sur de grosses sociétés, comme on parle de WPP, Interpublic, c'est des grosses sujet. Mais là, on voit bien que ça évolue, quoi. Ça bouge.
Mathieu, le groupe se porte bien, en effet, mais c'est vrai que le revirement stratégique, d'ailleurs, concernant le pôle média, n'a pas empêché de contribuer, justement, à la très bonne saison des résultats affichés au CAC 40.
Oui, alors ce qui est marrant, c'est que Edwige parle beaucoup de Canal et d'Havas, parce que c'est effectivement les deux...
C'est comme les deux piliers.
Oui. Et moi, je trouve ça intéressant aussi, du coup, de parler du reste, parce qu'il va y avoir donc un découpage. Donc là, on est dans du grand Vincent Bolloré. Ah. On découpe tout, on lance tout en l'air.
On code tout, parce qu'ils ont fait un tel.
Et en fait, le reste, les deux autres entités, d'abord, il y a le groupe Lagardère, hein, parce que Vivendi, on a pris le contrôle il y a quelques mois maintenant, l'année dernière. Et on ne sait pas très bien ce qu'il va faire exactement du groupe à Lagardère, parce que dans Lagardère, lui, ce qui l'intéressait surtout, c'est Hachette, hein, c'est le groupe d'édition. Dedans, il y a aussi une activité qu'on appelle le travel retail, c'est tous ces business de commerce dans les aéroports et les gares. Alors, en gare, on connaît ça en France bien, ça. Avec Relais, mais dans les aéroports, c'est beaucoup plus important et ça profite effectivement de la relance du trafic aérien post-Covid, et ça marche beaucoup. Beaucoup pensent, dont moi, que cette activité sera vendue un jour par Vincent Bolloré parce qu'elle est.
Pourquoi ?
Elle peut être extrêmement bien valorisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait la vendre peut-être 3, 4, 5 milliards. Enfin, c'est ce que disent les analystes. Et donc, faire rentrer du cash chez lui, enfin, ce qu'il sait faire depuis 30 ans. Hein, c'est le petit prince du cash.
Prince du cash flow.
Et du
c'est
coup.
Comme ça que l'avait.
Et la quatrième et dernière entité. C'est une sorte de... C'est une sorte de fonds d'investissement dans lequel il y a toutes les participations dont Vivendi ne sait pas quoi faire. Alors il y a des pépites incroyables comme Universal Music, il ne faut pas l'oublier.
Vivendi et le groupe Bolloré
en sont toujours actionnaires. Vivendi et le groupe Bolloré directement. Puis après, il y a tous les jeux auxquels a échoué Vincent Bolloré, ses investissements dans Telecom Italia, donc en Italie, ses investissements dans Mediaset, qui était une catastrophe puisqu'il s'est frité, mais c'était vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis de manière familière avec Silvio Berlusconi. Ouais. Il y a l'investissement dans le groupe espagnol d'édition Prisa, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire.
Rien.
Il y a plein de trucs. Ça va être le nouveau joujou de Vincent Bolloré. Oui. Une sorte de fonds d'investissement que personne ne va vouloir mettre un euro dedans parce que personne ne sait ce qu'il va en faire. Il va le reprendre en direct à un prix bas et puis il va extraire de la valeur comme il sait faire.
Bon, on verra, mais trading, en tout cas, sur la partie Lagardère, vous n'avez pas dit qu'il y a aussi une décision de la Commission européenne en cours sur une prise de participation anticipée de la part du groupe.
Oui. Parce qu'il y a un prêt qui peut tomber. Il y a une amende qui pend au nez. Je l'avais déjà posé la question la dernière fois. Là, je n'ai pas recommencé. Ça va être...
Oui, c'est toujours pas officiel, ça.
C'est toujours pas officiel. Margaret Vestager avait d'autres choses à faire. Hein, parce que
ça peut représenter 5% du chiffre d'affaires, donc c'est à peu près 500 millions d'euros. C'est quand même beaucoup.
Oui, je crois que c'est même 10.
Oui, c'est 10% du chiffre d'affaires.
Hein. J'ai un petit doute.
Alors, un milliard. C'est 10% du chiffre d'affaires. Ouais, enfin, au maximum, une amende. Ça fait un milliard, quoi.
C'est pareil.
Ça fait quand même beaucoup d'argent.
Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. On entend beaucoup dire qu'il y a des tractations. Avec même des interventions politiques en France et à Bruxelles, des jeux de pouvoir entre clairement l'Empire Bolloré, l'Élysée, la Commission européenne, et le fait qu'il ait vendu, que le groupe Bolloré, qui contrôle Lagardère, pardon, c'est compliqué, vous me dites quand c'est trop compliqué, qui vient de vendre l'hebdomadaire Paris Match au groupe LVMH, que voilà, il y a des tractations à la fois politique et en lien avec les organes de presse que contrôle Vincent Bolloré, puisqu'ils font quand même, ils posent problème à beaucoup d'hommes politiques.
Emmanuel Le Chypre, vous êtes bien silencieux. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne connais rien à ce dossier. Donc
ah, vous avez bien fait de venir.
Je garderai de m'exprimer. Non, mais comme Casino, comme Atos, c'est trop technique. Ça,
vous laissez ça à Mathieu Pechberti.
On bouffe tout son temps à Mathieu Pechberti.
Bon, c'est pas faux.
Laissons parler le spécialiste.
C'est pas faux. En revanche, Edwige, je vous l'avais aussi interrogé au-delà du business, quelque part, sur le côté sulfureux en fait, de ce groupe. C'est vrai que pas un jour ne passe sans qu'il y ait des polémiques.
Non,
mais c'est vrai que tous les groupes du CAC 40 n'ont pas des polémiques tous les jours.
Ils sont dans les médias, donc bon, voilà, il y a des Cyril Hanouna qui est leur vedette C8, mais c'est vrai que tous les jours il se passe quelque chose. Enfin, il se passe toujours quelque chose dans le groupe Bolloré, enfin au sens large du terme. Mais parce que ça nous concerne
dans
l'édition, évidemment, avec le bras de fer avec autour du départ d'Isabelle Saint-Portin chez Fayard. Mais oui, c'est sûr que nous, en plus médias, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe.
La présence de Nicolas Sarkozy.
Voilà, il y a
de groupe Lagardère, n'est-ce pas ?
Il y a tout pour faire justement un peu le buzz.
Donc, il aime bien ça.
Voilà.
Bon, une autre actu qui va faire le buzz, mais cette fois-ci à l'Assemblée, c'est le nucléaire. Là aussi, je me tourne vers vous, Mathieu Pechberti, puisqu'on a un projet de loi qui revient devant les députés sur la nouvelle autorité de contrôle du secteur. Le gouvernement avait essayé déjà l'an dernier de fusionner, pour faire simple, l'ASN et l'IRSN pour aller plus vite. C'est un peu la même toujours philosophie de simplifier et d'accélérer les procédures. Ça revient aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée, mais c'est hautement polémique comme sujet, Mathieu.
Oui, c'est hautement polémique. D'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, parce que c'était retoqué l'année dernière. Ce projet a créé beaucoup d'animosité à l'Assemblée, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de députés qui s'en sont emparés.
Y compris de la majorité, qui n'en voulait pas ?
Oui, alors il y a en tout cas des membres de la majorité, du groupe des indépendants de Lyotte, qui... cette fois-ci, en tout cas, parce que le texte est en train d'être examiné en ce moment même, ont rejeté l'article qui stipule la fusion de ces deux organisations, qui était rejeté en commission. Voilà, l'article 1, et il va être débattu. Si on va sur le fond du sujet, parce que après
allez-y.
On va dire que la guéguerre parlementaire, on y est un petit peu habitué, puis il y a des tractations en dessous. Il y a il y a une autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui, donc l'ASN, et qui a une sorte de bras armé technique avec énormément d'experts et d'ingénieurs extrêmement compétents, qui s'appelle l'IRSN. Et on va dire que l'IRSN joue un peu le rôle, pas de contre-pouvoir, mais en tout cas donne un ton assez rigoriste sur la sûreté nucléaire, est extrêmement pointilleux sur la sûreté nucléaire, ce qui, à mon sens, est normal. Voilà. Ouais. Et l'IRSN pose énormément de problèmes à l'industrie nucléaire, aux industriels du secteur, à EDF en particulier, à Orano en deuxième et à tous les autres, puisque depuis plusieurs années, il ne facilite pas effectivement l'essor de la filière, il ne facilite pas les projets, alors que c'est déjà difficile au niveau industriel. Ouais. Et donc, les industriels du secteur en ont clairement ras-le-bol. Enfin, moi, je le dis parce que c'est ce qu'on entend dans les couloirs et en coulisses. Et donc, cette réforme est quand même poussée par les industriels. On va le dire très clairement, et le gouvernement
n'arrive pas à la faire passer. Ce que les détracteurs disent, c'est que ça va surtout désorganiser le système existant, qu'on va perdre en termes d'indépendance au niveau des experts, et en termes de transparence par rapport au grand public.
Donc, oui, c'est le risque, clairement.
Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas logique d'avoir une autorité de sûreté nucléaire qui, voilà, plutôt que d'en avoir deux qui se tirent la bourre, d'en avoir une, quitte à donner à fixer une feuille de route qui respecte, parce que c'est quand même un sujet extrêmement sensible,
la sûreté nucléaire. Oui, c'est censé fluidifier, c'est vrai. Enfin, sur le papier.
D'avoir deux entités, quoi, voilà.
Non, mais moi, je ne me prononcerai pas. Le débat, c'est effectivement, le gouvernement dit il faut faire une seule autorité très forte pour aider la relance du nucléaire, c'est un wording. Et les détracteurs disent, mais en fait, justement, ça ne va pas du tout renforcer la sûreté nucléaire. Au contraire, puisque il n'y aura plus, entre guillemets, de contre-pouvoir, donc moins de débats sur la sûreté. Mmh. Et au moment où on est en train de relancer le parc nucléaire, il serait important de se concentrer sur la sûreté. Voilà. Et le président, pour terminer, de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Dorotsouk, a quand même dit très clairement que les enjeux de sûreté, ces dernières années, diminuaient, et que les politiques l'écoutaient quand même moins qu'auparavant. Avant, qu'il fallait l'entendre. Donc,
mais justement, au moment où on relance l'atome, ce projet de fusion est censé accélérer à la fois les processus de contrôle et les délais concernant les processus d'autorisation.
Oui, mais parfois, accélérer les délais, ça va contre la sûreté. La sûreté, c'est quelque chose de compliqué. La sûreté, ça veut effectivement dire prendre plus de temps parfois, plus de contrôle, donc ça coûte de l'argent. Ça n'avantage pas les industriels, très clairement. Et c'est un arbitrage à faire entre la sûreté et, on va dire, la productivité. Enfin, je caricature un petit peu, mais il y a quand même ce débat-là, chacun choisit.
Emmanuel Lechypre, est-ce que cette fusion risque d'aboutir à un choc des cultures ?
Oui, mais qui est salutaire, parce que l'argument de la sécurité et de la sûreté, il est commode pour tous les élateurs de la suradministration, de la paperasserie, etc. C'est une institution qui est tombée dans des dérives réglementaires absolument délirantes, sous prétexte de protéger les Français, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a ça a coûté quand même des milliards. C'est fantaisie. C'est-à-dire que quand vous regardez, si vous voulez, tous les travaux qui ont dû être refaits, prenez Flamanville par exemple, où pour des simples raisons administratives, on refaisait des soudures, des travaux, etc. Alors que, contrairement à ce qu'on laissait croire, la soudure était parfaitement exécutée, etc., machin et tout, mais parce que, par rapport au cahier des charges, dans le rapport final, il manquait un mot, deux mots, trois mots, etc. Donc, tout ça...
Donc vous dites que le nucléaire est lui aussi victime de la folie administrative
française. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Et que ces gens-là ont beau jeu de se planquer derrière la sûreté des Français, etc. Voilà, on peut pas dire, honnêtement, je pense pas que la filière nucléaire française penche plutôt par négligence et tout et tout. Donc moi, je veux bien qu'on soit extrêmement vigilant sur ces process.
Ça montre des choses.
Ce sont des process aujourd'hui qui sont devenus tellement absurde que finalement on en comprend
les histoires.
Mathieu, Bertine, s'y a
plus en place. Non mais raison de plus pour les remettre en question.
Ah mais moi je suis tout à fait partant. Moi je suis comme Edwige. Moi je suis tout à fait partisan de cette fusion et de mettre au pas.
C'est pas forcément mettre au pas, mais c'est d'ailleurs.
Mais franchement, ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Sous prétexte, non, c'est pas mon style. Non mais on est allé trop loin pour préserver encore une fois
la suradministration,
les intérêts de la suradministration. Qui est faite et qui est née pour complexifier, réglementer, etc. Et qui est gênée, qui ne veut pas qu'on touche à son précaire. Et voilà.
Mathieu Pechberti.
Non, allez-y. Je vais essayer de pas.
Ce que vous avez pour votre argent.
Ouais, faut résister. Non, je vais pas me positionner. Je voudrais juste
vous
rappeler.
Vous êtes
positionné.
Pour une fois.
Il faut le dire.
Alors je voudrais. Non. Je voudrais rappeler quelque chose. Le 11 mars 2011, il y a eu l'accident nucléaire de Fukushima. Et ce jour-là,
pas un accident nucléaire.
Oui, un accident nucléaire.
Pardon, le tsunami qui a provoqué.
Mais c'est important, Mathieu.
Voilà.
Le tsunami qui a provoqué un accident nucléaire majeur à Fukushima, ce jour-là, on a découvert en France qu'on avait une autorité de sûreté nucléaire extrêmement forte, extrêmement compétente, utile, efficace, et qui a d'ailleurs beaucoup aidé les Japonais. Et dernière chose. Dans le monde, il y a quatre grandes puissances nucléaires, les Américains, les Russes, les Japonais et nous. Il y a eu l'accident
La Chine qui arrive.
Et la Chine absolument. Mais historique, on va dire. Ouais. La Chine, c'est assez récent. Il y a eu l'accident de Three Mile Island aux États-Unis. Il y a eu l'accident de Tchernobyl, évidemment, dans l'ancienne URSS. Et l'accident de Fukushima au Japon. Nous sommes en France, la seule grande puissance nucléaire historique où il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France. Il y en a eu des mineurs. Mais il n'y en a pas une majeure. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, sachant qu'on est le pays au monde où on a le plus de réacteurs. On est le pays au monde où on a le plus de réacteurs nucléaires par habitant. 56 réacteurs nucléaires. On a quasiment un réacteur nucléaire par million d'habitants.
Est-ce que vous pensez que le rapprochement de ces deux institutions va mettre en péril la sûreté nucléaire française? Je ne pense pas du tout. Enfin, je ne vois pas pourquoi l'ASN va garder ses prérogatives.
Il faut écouter ceux qui il faut savoir à quoi sert l'IRSN. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent à quoi sert l'IRSN. Moi, je le sais. Et l'IRSN, effectivement, est une institution très technique avec des ingénieurs, des experts qui sont effectivement très rigoristes sur la sûreté nucléaire. Je pense pas que la France, qui est une puissance nucléaire, qui est en difficulté.
Mais le président du CRN devrait prendre la présidence du nouvel ensemble.
Difficulté,
là.
Je pense pas que ce soit le cœur de la relance du nucléaire de fusionner ces institutions.
Regrouper les savoir-faire au moment où on en a perdu tellement.
Et ce projet est un projet qui est poussé par l'industrie nucléaire parce que ça gêne EDF. Voilà, c'est tout.
Mais pourquoi ?
Mais parce que l'IRSN a énormément poussé, notamment. Lorsqu'il y a eu ces problèmes de corrosion, vous vous souvenez, il y a deux ans, où EDF. Et effectivement, Enfin, effectivement. Non, mais... La conséquence, c'est que ça a coûté beaucoup d'argent à EDF et que beaucoup disent dans l'industrie que si ces réparations,
oui, l'autorité de sûreté avait
accepté de les étaler sur 4-5 ans et pas sur un an, ça n'aurait pas coûté autant d'argent. Très bien. Et
pour être plus modéré, effectivement, il ne s'agit pas de remettre en cause et de dire que
c'est des empêcheurs.
Mais il y a quand même dans cette institution une certaine forme de dérive. Pas administrative, mais tatillonne,
oui,
qui fait que
des rigoristes,
effectivement, ils sont allés sans doute quand même un peu trop loin. Alors là, je sais que vous allez hurler, mais raisons pour lesquelles oui, et je dis pas qu'il faut en arriver là et que c'est un modèle, surtout pas. Enfin, une des raisons pour lesquelles les Chinois ont réussi à construire aussi vite leurs EPR, peut-être que ils ont une autorité qui est pas aussi tatillonne, et peut-être que la Chine le paiera un jour. Et je dis certainement pas qu'il faut descendre peut-être à ce niveau-là de contrôle. Mais enfin,
il y a un juste milieu.
Entre le niveau français qui est excessif au point de fragiliser notre industrie nucléaire et un niveau qui garantit notre sûreté sans compromettre cette industrie nucléaire, il y a quand même un peu de marge de manœuvre.
Bon, en tout cas, le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, débattu, et donc en examen jusqu'à mercredi.
C'est pas ce qui va se passer. Débattu en ce moment même ce soir.
Oui, c'est pas évident, du reste, parce qu'au Sénat, c'est du mal. Donc,
Il y a un gros lobbying de beaucoup de gens qui sont derrière ces députés contre ce projet. Hein. Ouais. Un petit projet, entre guillemets, c'est un petit projet à l'échelle de la nation.
Bah, essentiel,
mais ça suscite beaucoup de débats. Ouais.
Tout à fait. Il nous reste 3 minutes pour finir. Là, on parle du projet de loi qui agite l'Assemblée ce soir. Pardon. Ça va être court. On va faire court. On va aller à l'essentiel. Avec le calendrier législatif, là, pour le coup, on connaît aussi le menu législatif d'ici à l'été. Les élus l'attendaient évidemment de pied ferme pour savoir sur quoi ils allaient travailler d'ici aux vacances. Ça y est. Le gouvernement l'a donné. Et pour faire simple, on va se cantonner, puisqu'il nous reste 3 minutes, à ce qui intéresse Bercy et ce qui nous intéresse en priorité sur BFM Business. On va avoir dans l'ordre, début avril, l'attractivité de la place de Paris. Ensuite, la loi Pacte 2, ça ce sera au Sénat début juin. Et la loi Macron 2, on l'a baptisée comme ça, c'est le nouveau projet de loi sur les rentes, ça c'est repoussé à la rentrée.
Mais attendez, moi j'ai un problème.
Est-ce que ça vous semble être le...
Ben non, parce que où est passée la grande loi énergétique, là, justement?
C'est la grande absente,
c'est incroyable. Ouais. On nous expliquait que c'était urgent, c'était formidable et machin, que c'était essentiel pour l'avenir du nucléaire français. Hop, disparu dans un trou.
Oui, mais parce que précisément, Edwige, les textes qui fâchent ont été renvoyés à après l'été.
Ben voilà.
Sur les renouvelables, notamment, et sur le fait de fixer des objectifs. Emmanuel Macron et le gouvernement l'année dernière, de fixer des objectifs de développement sur les énergies renouvelables.
Les objectifs de développement du renouvelable. Le président de la République, en février 2022, il les a donné, les objectifs de développement des renouvelables à Belfort.
Oui, mais.
Quand il a annoncé la relance du nucléaire et le développement du. Là, c'est la trajectoire pluriannuelle.
Oui, et puis les moyens pour atteindre ces objectifs.
Et les moyens. Et on revient.
Ouais, mais on en a de moins en moins d'ailleurs.
Le débat qu'on a avec Emmanuel sur
énergétique, c'est quand même
le renouvelable et le green entre guillemets, très bien. Mais enfin bon, quand ça coûte des sous à l'État, voilà. Et donc Bruno Le Maire qu'on voit derrière vous, qui est le nouveau ministre de l'énergie,
Parce que ça, Agnès Pannier-Runacher, en remaniement, allait publier le texte. Hein,
oui, c'est ça.
Et lui a dit finalement, on repousse ça au calendrier grec pour intégrer le renouvelable.
Bruno Le Maire aujourd'hui a fait un déplacement pour parler des économies d'énergie.
On va en parler, tout à fait.
Oui. Donc on parle d'énergie, mais on parle d'économie avant tout.
Ça ne concerne pas que l'énergie, ça concerne l'ensemble des sujets qui sont sur la table.
Mais les dernières, tous ces ministres disaient à fond les ballons sur l'énergie, la souveraineté énergétique, etc. Vous entendez ça encore, vous?
Non.
Moi, non.
Bon.
Non.
Mais tout va. Non, mais grosso modo. Emmanuel, le mot de la fin pour vous.
Grosso modo, tout va plutôt dans la bonne direction sur ce qui est Non, mais grosso modo, faut être honnête simplification, sur tout ce qui est attractivité, sur l'agriculture. En gros, tout va dans la bonne direction, mais tout va trop lentement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, ce sont des petits pas là où on espérait sur le logement pareil. Sans doute que effectivement, on va avoir quelques améliorations avec cette revisitation de la loi SRU, etc. Donc tout va plutôt dans la bonne direction, mais tout va malheureusement.
C'est des petits pas.
Tout malheureusement trop lentement. Et puis l'autre leçon qui a été retenue, effectivement, c'est que quand on n'a pas de majorité absolue, on évite, comme ça a été le cas en 2023, de prendre les sujets les plus clivants, c'est-à-dire l'immigration, par exemple. Là, on voit bien qu'il y a des lois qui sont des lois consensuelles, la loi fin de vie, etc. On voit bien
qu'il y a... Ah, la loi consensuelle et la loi fin de vie est consensuelle.
Ah, je pense que, enfin, constructive. Je pense que ça va discuter sur des bases qui sont des bases
raisonnables.
On sent qu'effectivement Emmanuel Macron, il a pris tous ses gants, enfin, il a sorti tous les gants pour essayer de ne pas heurter Trop de monde.
Oui. Enfin, en tout cas, on note que tout va dans le bon sens et c'est Emmanuel qui, le Chypre qui le dit. Une fois n'est pas coutume.
Quand je dis tout va dans le bon sens, c'est quand vous regardez, encore une fois, et ce qu'était la logique de Emmanuel Macron depuis le début, c'est de dire quels sont les handicaps français, sur quoi la France perd du terrain par rapport à ses concurrents, et essayons de gommer finalement ces handicaps de la France. Et ben, on voit bien que là, on va vers quand même la poursuite de cette démarche.
Bon, ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci à tous les trois, Edwige Chevrillon, Mathieu Pech-Berti, Emmanuel Le Chypre. Edwige, d'un mot, votre invité demain.
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, parce que justement, demain.
Emmanuel,
honnêtement, je trouve qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il dit des choses qu'on entend nulle part ailleurs.
Et puis demain, il y a discussion à l'Assemblée nationale justement sur sur l'Ukraine. D'où l'intérêt de l'avoir juste après.
Tout à fait. Bon, eh ben on suivra ça avec grand intérêt demain à partir de 18h10. Et nous, Audrey, ben on se retrouve à 19h.
Oui, absolument. Restez avec nous. On va parler de la chasse aux économies, notamment sur la dépense sociale, mais pas que.
Oui, aussi économie sur l'énergie. Effectivement, c'est ce que disait Mathieu Pech-Berti. Puis on va parler de ce calendrier législatif d'ici à l'été. Est-ce que tout ça va dans le bon sens, comme nous dit Emmanuel Le Chypre. On demandera à nos experts.
À tout de suite.